Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Mathieu Bock-Côté.
Il représente un segment très important de l'opinion publique.
Richard Martineau.
Tu vis sur quelle planète?
La Rencontre.
Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie.
C'est hallucinant.
La Rencontre. Bock-Côté. Martineau.
Alors, Mathieu, dans ta chronique aujourd'hui, tu reviens sur une entrevue que Léa Clermont-Dion a accordée à Stéphane Bureau sur son balado Contact. Et elle parle du bled, du coin d'où elle vient. Puis elle dit, elle vient d'un coin white trash. Et toi, tu dis, ben jamais elle aurait dit ça en parlant de black trash, par exemple, ou quelque chose comme ça. Comment ça se fait qu'on a le droit de critiquer, critiquer les blancs, mais pas les noirs, par exemple?
En fait, c'est un entretien assez particulier où je reviens sur ce segment-là. Le reste n'est pas nécessairement intéressant, pas du tout même. Mais ce segment-là est intéressant. Pourquoi? Parce que elle dit donc d'où elle vient de Rawdon. Et elle prend la peine de prendre un accent en Rawdon, comme si elle prenait l'accent du coin sur le mode justement pour le blédiser. Et elle explique qu'il s'agit, je cite, d'un endroit qui est sauvage. Ensuite, elle nous explique pourquoi c'est sauvage. Parce que l'endroit où il y a des pistes de sable pour faire des concours de motocross. Et par ailleurs, c'est un endroit où la bibliothèque n'est pas particulièrement particulièrement fournie. Donc, c'est un endroit globalement inculte. Et pour parler donc de Rawdon, tel qu'elle dit, elle dit que c'est un coin qui fonctionne selon le white trash pittoresque. Alors, Bureau, bon intervieweur, elle répond, d'accord, mais c'est pas un peu méprisant quand même ce propos-là, c'est-à-dire, est-ce que tu dirais, premièrement, t'es consciente que les buts de Montel lui demandent, est-ce que les ceux qu'on appelle les white trash aux États-Unis, c'est souvent des petits blancs déclassés qui vivent dans des roulottes et ainsi de suite, parce que c'est une population assez abîmée. Donc, est-ce qu'on se permettrait d'avoir un langage racial? Ainsi, on parlait de n'importe quel autre groupe, et il demande, est-ce qu'on pourrait dire black trash? Et elle répond, non, bien sûr que non. Je dis, d'accord, mais elle dit, mais pourquoi? Et là, donc moi, ma chronique arrive à ce moment-là, je dis, c'est intéressant, parce que cette séquence-là est révélatrice, en fait, de l'arrière-fond idéologique d'une bonne partie de nos élites médiatiques. Léa Clermont-Dion, c'est une militante, une documentariste féministe très connue. Et qu'est-ce qu'elle nous dit à travers ça? Ben, spontanément, il lui est possible dans son esprit d'utiliser des insultes raciales pour parler de segments de la population, les blancs. Mais si on lui dit, mais il y a une possibilité de dire la même chose, t'sais, imaginons si quelqu'un parlait avec autant de sévérité de Montréal-Nord, par exemple, qu'elle parle de Rawdon. Est-ce qu'on, en disant c'est black trash, par exemple, eh bien, on condamnerait toi, moi, d'autres en disant que c'est inacceptable. Pourquoi est-ce que ce l'est pour cet endroit? Donc là, tu vois le régime du deux poids, deux mesures, dont dans la chronique, je dis, mais c'est qu'on le voit sur bien des affaires, dans bien d'autres domaines de la société. Puis là, je vais détacher de son interview en disant, quand on critique l'islam, on est accusé d'islamophobie. Mais quand on critique le catholicisme, est-ce qu'on est accusé de catophobie? Quand un homme se voit refuser un poste parce qu'il est noir en tant que noir, on voit du racisme là-dedans, évidemment. Mais quand un homme s'est refusé un poste en tant que blanc, parce qu'il est blanc, ça c'est des politiques de discrimination positive, comme on a vu à l'Université Laval récemment, et là on refuse d'appeler ça du racisme. Donc quel est le fonctionnement de cette logique de poids, de mesure? Et ce qui est amusant, c'est que hier, je crois, Léa Clermont-Dion a répondu, quand tu veux répondre en fait.
Ben écoute, elle a fait une longue réponse, et d'ailleurs je voulais commenter sa réponse, et elle me barrait. Je ne peux pas le mettre de commentaire sur sa page Facebook, elle ne veut pas. Bonjour, la diversité d'opinion, mais cela dit, elle dit que tu lances ta meute contre elle et que tu l'attaques, et puis là elle prend bien sûr la position de victime, le grand puissant Mathieu Bock-Côté qui lâche sa meute contre moi, comme si tu n'avais pas le droit d'émettre la moindre critique face aux propos qu'elle a tenus.
Ben alors, il y a deux choses. Premièrement, elle ne revient pas du tout sur le propos que je tiens, c'est-à-dire qui est exact. Je la cite. Je me contente de la citer et de commenter. Donc ça, et elle laisse croire, bon, que je... En fait, c'est une drôle de manœuvre. C'est plutôt comique. Je t'avouerai, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais mon Dieu, que ça manque de subtilité. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle se présente comme la victime d'une entreprise d'intimidation, mieux connue sous le nom d'une critique de son propos. Et elle dit, je lance ma meute contre elle. Ben, j'ai pas l'impression particulièrement de lancer une meute quand j'écris une chronique. Mais qu'est-ce qui se passe au même moment? Alors là, de son côté, sur Instagram, sur Facebook et ailleurs, alors là, cela dit, genre, tout ce, le progressisme mondain se ligue sur le mode pour m'attaquer, mais très sévèrement, on me traite de raciste, par exemple, de manière assez violente même. Elle like les statues, on m'insulte grossièrement. Donc, elle m'accuse d'avoir fait une attaque à Eminem, alors que je me suis contenté de critiquer son propos. En plus d'ajouter dans le papier, j'ajoute que quand Stéphane Bureau l'a repris, elle a dit, ah oui, ben, effectivement, je devrais pas dire ça. Donc, je prenais la peine de dire que elle avait cherché à s'amender. Et là, elle ne revient pas du tout sur son propos et cherche à faire une forme de scandale dans le scandale. C'est-à-dire, finalement, lorsqu'on critique le progressisme mondain aujourd'hui, eh bien, c'est vu inévitablement comme un discours haineux, une tentative d'intimidation. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que dans le petit milieu progressiste, hier, peut-être aujourd'hui aussi, mais là, ça devenait le post à liker. Appelons ça comme ça. C'est là pour montrer qu'on était dans la communauté des vertueux, tel est liker ça. Et là, bien des gens, puis j'ai eu quelques échos là-dessus, ils ont lu son entrée Instagram ou Facebook sans prendre la peine de lire le texte auquel ça faisait référence. C'est formidable. Donc là, c'est une manière finalement de se victimiser doublement. Donc déjà qu'elle sortait plutôt abîmée quand même de son interview avec Bureau, eh bien, la manière de reprendre la main finalement, c'est de laisser croire que noter simplement publiquement l'existence de son propos et le questionner, ce serait de l'intimidation. Ça nous ramène à quel point, ça j'ai souvent eu l'occasion de le dire, le progressisme fonctionne aujourd'hui comme ça, c'est qu'il considère que quand on critique son discours, sa vision, c'est inévitablement des propos haineux. C'est un propos inacceptable. C'est un propos scandaleux. Et c'est assez fascinant de voir finalement que la remise en question d'un point de vue, puis elle n'est pas la seule à fonctionner ainsi, c'est vu justement comme une tentative d'intimidation. Et là, il y a aussi, par ailleurs, c'est assez drôle, il y a Kim Lizotte, si je ne me trompe pas, qui intervient en faisant, en m'attaquant, en disant « il est bien », alors plus en plus, c'est un vocabulaire qui me semble un peu étrange, il dit « il était temps qu'une personne blanche me call out ». Alors, je note premièrement qu'il misote, donc racialise ses propos. C'est-à-dire, pour elle, la couleur d'une personne compte quand vient le temps de dire, de critiquer quelqu'un d'une manière ou de l'autre. Donc, elle tombe, elle aussi, hélas, dans les préjugés raciaux. Et ensuite, me call out. Bon, ben, ça, pour le reste, je lui laisse ce vocabulaire qui me semble appartenir à la publicité récente de la CAQ sur l'anglicisation du français au Québec. Et c'est pas la seule, hein. Et là, c'est parce que c'est toujours le même discours. C'est l'idée qu'il y aurait une meute qui serait dans.
Oui.
Donc moi, ce que je note là-dedans, c'est que, encore une fois, la gauche mondaine voudrait avoir le monopole sur la parole publique légitime. Et même lorsqu'on la critique respectueusement, lorsqu'on la critique sévèrement, mais respectueusement, elle y voit une forme d'affront. Et comment elle réussit à retourner l'événement? En se présentant comme victime d'une campagne haineuse. Et dès lors, on ne discute plus de son propos, mais on discute supposément de la campagne haineuse qui aurait été lancée contre elle. Tout ça est assez gros comme le nez au milieu du visage. Ça en est plutôt drôle, en fait. Une démonstration de manière amusante de ce que j'ai eu l'occasion de décrire et très souvent, mais il n'en demeure pas moins que c'est ainsi qu'on cherche à faire oublier ce qu'a fait Léa Clermont-Dion, qu'elle a parlé de Radon en disant que c'était du white trash pittoresque, sauvage, où les bibliothèques sont encore et où il y a des concours de motocross et de pit de sable. Comment dire, si elle parlait avec de la même manière. Alors, j'ajoute, elle dit pourquoi elle parle comme ça dans cet endroit-là, mais parce qu'elle a été apparemment persécutée là-bas. On l'aurait été intimidée, tout ça. Bon, mais moi, quelqu'un qui connaîtrait un mauvais jour, soit dans Montréal-Nord, soit dans Saint-Michel, soit dans Saint-Léonard, ou n'importe quel autre quartier, est-ce qu'il pourrait, de ce point de vue, diaboliser le quartier dans son ensemble? Tout cela m'intéresse.
Et c'est drôle, hein, les gens qui pensent comme toi font partie d'une meute agressive et sanguinaire. On imagine des chiens là avec l'écume à la bouche, à la gueule, alors que les gens qui pensent comme elles sont des gens sensibles et sensés. Et voyons, c'est ridicule ça.
Non, mais moi surtout, moi, j'ai rien de particulier contre Léa Clermont-Dion. Je note, c'est un personnage public qui tient un propos qui me semble assez inquiétant. je le note tout simplement. Je pense que c'est une chose importante. On fait pas partie de la même école de pensée. On n'est pas appelé à s'entendre. Mais il y a quelque chose d'assez fascinant. Je te donne quelques exemples. Dans son texte, elle dit, il y a des limites à accepter des propos mensongers quasi diffamatoires. Très juste, alors que j'attends qu'on me dise lesquels. Et là, depuis plusieurs années, j'observe les dérives idéologiques de Mathieu Bock-Côté, mais je me tais ne voulant pas alimenter la polarisation des débats dans l'espace public. Puis-je savoir lesquelles dérives? Elle dit, je suis un argument de Mylène. Là, ce qui est assez drôle, comme je dis, dans les commentaires qui suivent, c'est que des personnes attaquent très, très, très violemment et elles likent sans gêne. Qu'est-ce que ça veut dire, cette manie, finalement, de participer soi-même au lynchage du chroniqueur qui nous critique? Sinon, c'est une manière de dire, en envoyant le signal à tous, si vous me critiquez, moi, figure immaculée de l'espace public, moi, figure qu'on n'a pas le droit de critiquer, vous allez en payer le prix. C'est un refus du débat public assez triste, en quelque sorte, mais c'est pas surprenant. C'est pas surprenant, mais c'est ainsi.
Toi, on peut te critiquer, on fait œuvre utile lorsqu'on te critique, mais elle est au-dessus de toute critique. Si tu la critiques, c'est nécessairement une attaque.
Oui, mais c'est ça qui
est incroyable.
Triste, en fait. C'est de ça dont je me désole. C'est que la critique publique n'a pas été mis donnée. On s'entend, il est possible, ça fonctionne pas à fleur et moucheté. Les critiques peuvent être vives. Les critiques, pour peu que les critiques portent sur les idées. Or, moi, quand on décide de présenter l'autre comme une forme de figure conspiratrice qui jetterait une meute pour empêcher une simple figure de s'exprimer publiquement, j'essaie de comprendre, surtout quand on prend la peine de citer la personne. C'est pas la première fois que je vois ça. Hein. C'est-à-dire, moi, ce que je fais, surtout en passant, mon propos recoupe à peu près celui de Bureau dans l'interview. Hein. Bureau lui fait remarquer la signification de ses propos, et moi, je fais la même chose en développant un peu plus. Alors, je me demande dans quelle mesure est-ce qu'elle reporte cette extrême sévérité, là, ce qu'elle dit à mon sujet. Est-ce qu'elle pense la même chose de Stéphane Bureau qui lui a fait remarquer la même chose que je lui fais remarquer? Ou est-ce que c'est moins payant, peut-être, symboliquement, d'attaquer Stéphane Bureau que d'attaquer Mathieu Bock-Côté? J'en sais rien. Moi, j'ai la plus grande estime pour Stéphane Bureau, puis je pense qu'il ne mérite aucune attaque. Mais je note que pour avoir tenu les mêmes propos, eh bien, dans un cas, on lance la charge, et dans l'autre, eh bien, on se dit, peut-être, est-ce que j'étais trop loin? J'en sais rien. Mais comme je te dis, cette histoire n'est intéressante que parce qu'elle est révélatrice du fait que quand le parti de la vertu autoproclamée se sent fragilisé parce qu'on prend la peine de le citer et de noter publiquement ce qu'il dit, il prétend qu'on lance contre lui une campagne haineuse. Et là, la rumeur dans le petit milieu, c'est « Oh là là, Léa Clermont-Dion a été victime d'une campagne haineuse de la part du grand méchant Mathieu Bock-Côté. Elle a été la cible de ça, Bock-Côté a été trop loin et tout ça. » Mais jamais le sujet, ce ne sera les propos de Léa Clermont-Dion. Ce sera l'auto-victimisation dans l'espace public pour éviter justement qu'on puisse discuter des propos qu'elle a tenus. C'est connu, mais là, on en a une démonstration en direct depuis 24 heures.
Tout à fait. Elle était claire. Elle a tenu ces propos-là, puis elle a dit, j'aurais jamais dit ça concernant un quartier de Noirs. Voilà, alors tout est dit. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain, Mathieu Bock-Côté.
Bye bye. Salut.